Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Franchement dit.
Jonathan Trudeau.
Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1-877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio.
On va parler de politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel.
Bonjour.
Écoute, une dernière chronique comme ça avant les vacances, des fois l'approche de la Saint-Jean, on se dit, on va-tu avoir quelque chose à jaser de politique? Mais là, écoute, il y a tellement, c'est rare qu'on ait un menu aussi chargé que ça, parce qu'il y a plein d'éléments à aborder. Commençons tout de suite par la mise à jour économique du gouvernement du Québec, le ministre des Finances, Éric Girard, qui est en train de faire sa mise à jour. Et sans grande surprise, c'est un déficit majeur et plus important encore que ce qui avait ce qu'on avait laissé présager au cours des dernières semaines, au fond, là.
Ouais, Québec se dirige vers un déficit là, de 14,9 milliards de dollars de l'économie en 2020-2021. Pourquoi? Ben, à cause de la baisse des revenus, hein, qui sont monumentales, qu'on ferme là, 40% de l'économie qui a été fermée. Et ça, c'est sans compter les coûts directs là, causés par la COVID, les masques, les blouses, les gants de protection, tout ça. Là, juste ça, ça a pris 2,3 milliards de dollars, imagine. Alors maintenant, ça va être le défi du gouvernement, ça va être de trouver une façon de résorber tout ça. Il y a une partie de ce déficit-là qui, on espère, va se résorber seul, là, mais les revenus du gouvernement ont baissé de 8,5 milliards là, en fermant l'économie. Donc ça, alors que l'économie va reprendre, il y a un pari là, que l'argent va recommencer à rentrer, mais les dépenses pour la COVID, elles, vont quand même continuer. Là. Jusqu'ici, elles ont coûté 6,6 milliards de dollars au total. Mais quand on pense qu'il va continuer à falloir d'acheter des blouses, des gants, des masques et tout le reste pour se préparer pour la deuxième vague, les coûts associés aux mesures qu'on veut mettre en place dans les CHSLD, la capacité de tester à grande échelle qu'on n'est toujours pas capable d'atteindre, là. Mais le gouvernement a quand même un objectif de 20 000 tests par jour. Mais juste ça, ça va coûter 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Alors, le Québec qui en prend, qui encaisse ça de plein fouet. Et je pense que ça illustre à quel point, moi je salue là, cet exercice de transparence du gouvernement Legault, mais ça illustre à quel point c'est important pour le gouvernement fédéral de faire la même chose là.
Oui, parce que justement, du côté du gouvernement Trudeau, évidemment, on a dépensé sans compter, là, c'est le cas de le dire, et on se fait tirer l'oreille, là. On se fait tirer un bras pour faire la mise à jour économique qui va venir finalement un peu plus tard.
Oui, finalement, elle va venir le 8 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 journées de réservées pendant l'été pour siéger vraiment formellement, mais sur des enjeux plus généraux. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir pas une mise à jour économique traditionnelle là, parce que le gouvernement maintient que c'est à peu près impossible de faire des prédictions de croissance et tout le reste. Parce que les tendances sont trop difficiles à lire, parce que l'économie mondiale est trop perturbée, mais au moins pour avoir un portrait réel de l'état de l'économie, un peu comme ce que vient de nous offrir le gouvernement Legault. Ce qui est intéressant dans le cas du Québec, c'est que la veille de quand tout ça nous a frappé de plein fouet, le 10 mars, on l'oublie, mais c'était le budget du Québec qui ne faisait pas état de la COVID parce que fallait pas s'en faire. Quand ça allait arriver, on serait correct. Et le gouvernement disait non, mais tu sais, il y a la marge de manœuvre, il y a le fonds spécial dans lequel on pourra aller piger. Il y a plein d'argent là-dedans. Il y a 14 milliards de dollars. Mais là, juste d'un coup, on vient d'effacer là, tout de réserve là, dans laquelle le gouvernement, de réserve comptable dans laquelle le gouvernement pouvait aller piger. Je pense que ça illustre à quel point le gouvernement Legault, néanmoins, là, malgré les efforts remarquables qu'il a fait pour gérer la crise une fois qu'il l'a frappé, à quel point le gouvernement avait sous-estimé l'impact potentiel de cette crise-là et était en quelque sorte mal préparé aussi, là.
Ouais, absolument. On a mentionné Justin Trudeau, revenons-y si tu le veux bien. Je trouve que c'est pas ce que j'appellerais une bonne semaine pour Justin Trudeau, parce que la PCU, bon, il a annoncé le prolongement, mais sans aucune modification, sans autres critères restrictifs ou incitatifs pour retourner sur le marché du travail, bien des gens dans plusieurs secteurs économiques qui dénoncent ça. On ajoute à ça l'échec à l'ONU, qui est une véritable gifle au visage de Justin Trudeau. Et là, même dans les dernières heures, on a appris que la Chine avait formellement déposé des accusations d'espionnage contre les deux Canadiens qui sont retenus prisonniers là depuis des mois et des mois. Bref, ici comme ailleurs, c'est pas une bonne semaine pour Justin Trudeau, là.
Non, pas du tout. Et c'est sur le front des deux pauvres Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, qui sont détenus depuis 18 mois en Chine. Je te dirais que on n'est pas surpris que finalement la Chine finisse par les accuser formellement, mais on voit à quel point la Chine a fait le calcul de faire mal au Canada au lendemain du vote à l'ONU. Là, on fait ce geste-là le lendemain d'un échec, mais moi je pense qu'il l'aurait fait même le lendemain d'une victoire, on s'entend. Mm-hmm. Pour rappeler au Canada à quel point la Chine n'est pas prête de lâcher ce morceau-là. Ce qui était très inquiétant, c'est que tant qu'ils n'étaient pas accusés, ils pouvaient envisager une voie de sortie diplomatique où tout le monde pouvait sauver la face. Le problème que ça pose maintenant pour ces deux hommes-là, c'est qu'à partir du moment où ils sont formellement accusés, ben, ça complique encore plus les efforts pour essayer de les faire libérer. Et ce genre d'accusation-là, en Chine, a généralement un taux de condamnation de 100%.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Et là, la Chine a lié les deux cas ensemble en disant que finalement, l'un était l'agent de l'autre sur le terrain. Donc, c'est complètement abscon, là, parce qu'il n'était pas du tout dans les mêmes sphères de travail, etc. Mais c'est sûr que c'est le casse-tête ultime dont je pense que le gouvernement ne réussira jamais à se libérer. Mais sur le front de la PCU et de la Chine, ce que d'intéresse et de l'ONU, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu ces deux cas où, de manière très différente, le gouvernement Trudeau récolte ce qu'il a semé. Commençons par la PCU. Il se retrouve à être forcé de la prolonger deux mois, mais sans la corriger. Ce qui est la chose que le gouvernement ne voulait pas faire, parce que le gouvernement reconnaît lui-même qu'il y a des problèmes. Des problèmes de fraude, donc il faut augmenter les pénalités et faciliter la capacité de punir les fraudeurs. Et il y a un problème de désincitatif au travail. Donc, on voulait mettre des mécanismes dedans qui allaient forcer les gens à démontrer qu'ils ne pouvaient pas recommencer à travailler. Donc, quelqu'un qui se faisait offrir son emploi par son employeur avait plus droit à la PCU parce qu'il y avait son emploi auquel il pouvait retourner. Cette mesure-là avait l'appui du Bloc et du Parti conservateur la semaine dernière. Et la raison pour laquelle ça n'a pas été retenu et que ça n'a pas pu passer, c'est parce que le Bloc et le Parti conservateur, à un moment donné, disent ça prend une mise à jour économique, il faut que le Parlement siège. C'est fini, là, cette parodie de démocratie. Là. Le Bloc qui demandait aussi au Parti libéral de remettre l'argent de la subvention salariale qu'il a touchée. Et donc, finalement, en jouant les gros bras et en refusant de rappeler le Parlement de manière formelle, le Parti libéral s'est placé dans une situation où la seule partie avec qui il peut négocier, c'est le NPD.
Ouais.
Et donc, il était otage des demandes du NPD qui voulait que la PCU soit reportée telle qu'elle. Et donc, il est prisonnier de ça. Puis sur le front des Nations unies, le gouvernement pêche pour avoir et puni, moi, je pense, d'un pour l'espèce de bravade de se lancer dans une course qui était très tard, alors qu'il restait que 4 ans pour faire campagne et que les adversaires qui étaient crédibles faisaient campagne depuis 5-6 ans. Et donc, une bravade, c'est de dire, oui, mais moi, je m'appelle Justin Trudeau, c'est le Canada,
exact.
On va l'avoir, tu sais. Il y a un aveuglement total. Puis après ça, d'avoir eu l'audace de faire campagne et de pas livrer la marchandise, de pas livrer un engagement sérieux sur le front des casques bleus, d'avoir parlé beaucoup de féminisme sur la scène internationale, mais de ne pas avoir augmenté les budget du Canada en termes d'aide internationale et d'avoir eu une ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui n'a absolument pas fait campagne et qui ne s'en est pas occupé pour deux cents. Mmh. Alors, morale de l'histoire, c'est le pauvre François-Philippe Champagne qui a été pris à réparer les pots cassés et essayer de sauver la mise sur une période de six mois. Alors, ouais. C'est un gouvernement qui est puni, moi, je pense, pour sa mauvaise habitude de promettre beaucoup et d'avoir de la misère à livrer la marchandise et à passer à l'action.
Je veux qu'on parle du chef du NPD, Jagmeet Singh. Moi, j'ai, comme on dit en bon québécois, pété un plomb en parlant avec Jean Martineau là-dessus tantôt. Je suis curieux d'entendre ton analyse, ta lecture de l'attitude de la situation de Jagmeet Singh qui, à plus d'une reprise, même il réitère donc le fait que si les députés du Bloc québécois ont refusé de voter contre la motion qui avait été déposée concernant le racisme systémique et la GRC, ben que ça fait deux des racistes. C'est assez particulier, non?
Ouais, c'est moi je trouve que c'est assez malheureux de la part de monsieur Singh parce que c'est justement la façon de ne pas mener ce débat-là. Quand tu mets à traiter le monde de raciste parce qu'ils sont pas d'accord avec toi sur une question stratégique autour de la façon d'aborder le racisme à la GRC, faut en revenir à ça là. C'est comme se revendiquer d'être en possession tranquille de la vérité sur comment procéder dans ce débat-là dans la société. Je suis de ceux, par ailleurs, qui trouvent que c'était très maladroit de la part du Bloc québécois de ne pas voter en faveur de ça quand ils venaient de voter en faveur d'une enquête sur le racisme systémique à la GRC. Et ça, c'est comme tout ça, là, un ulvipère là, de mauvaise foi et de mauvais calcul politique. Je comprends pas pourquoi le Bloc québécois est dans des entourloupettes à dire qu'il y avait juste à l'appuyer, la motion. C'est une enquête sur le racisme systémique à la GRC, si tu penses qu'il y en a.
Mais en vérité, ça justifie pas le fait qu'il se fasse traiter de raciste, là.
Je suis absolument, absolument d'accord avec toi. Mais, le Bloc québécois veut pas trop s'avancer là-dessus puisque le racisme systémique c'est pas un mot qui est populaire au Québec. Alors on essaie d'épargner la chèvre et le chou. Et là, Monsieur Singh, c'est la cerise sur le sundae de traiter le Bloc son leader à l'intérieur de raciste. C'est très facile parce que il est racisé, il est un chef de couleur et donc on peut pas l'attaquer là-dessus. Moi, je trouve ça très maladroit. Je trouve que c'est très malsain. Mais il y a une chose que M. Trudeau a dit là-dessus et qui m'amène à réfléchir à comment on va se sortir de ce débat-là. M. Trudeau faisait valoir, lui, qui essayait aussi d'épargner la chèvre et le chou dans ce débat-là, a dit « Ce n'est pas ma place, moi, politicien blanc, de reprocher à comment le seul chef politique de couleur à la Chambre des communes reçoit et interprète la façon dont les autres discutent du racisme. » Donc, ce n'est pas moi, comme blanc, qui va porter un jugement sur la réaction de quelqu'un de couleur à ce débat-là. Et ça m'a porté à réfléchir. Je n'ai pas absolument pas la réponse à ça. Et je pense pas que ça dédouane M. Singh dans la façon dont il a exagéré en accusant le Bloc québécois de raciste. Là. C'est complètement exagéré. Mais je me suis dit, comment on fait après ça pour mener ce débat-là dans la société? À trouver la générosité que ça exige pour que la majorité blanche accepte des réactions qu'elle juge parfois exagérées de la part des gens de couleur dans ce débat-là. Parce qu'on peut pas, il faut, je pense, développer, nous, cette générosité-là dans la façon dont on aborde le débat. Mais je pense que ça exige aussi que les gens de couleur, pour qui c'est beaucoup plus émotif que pour nous, ait la tolérance d'accepter la maladresse de la majorité blanche dans la façon dont on mène ce débat-là. Alors, la seule façon dont tu peux le mener, finalement, c'est en faisant preuve de générosité et d'une extrême bonne foi. Et c'est là, moi, je pense que M. Singh a dérapé. c'est que c'est facile de mettre, de dire, ah, mais le Bloc, c'est les Québécois identitaires racistes. Et c'est là que ça va se chercher. Et c'est là que moi, je pense que M. Singh a erré. C'est que lui, comme chef racisé d'un parti politique, qui a voix au chapitre et qui peut nous en apprendre beaucoup là-dessus, n'est pas à l'abri de son obligation de faire preuve de générosité dans la façon dont ce débat-là est né. Et donc, même si je crois très maladroit du Bloc québécois de voter contre cette motion-là, surtout compte tenu du fait qu'ils en appuyaient les principes, on s'entend, là, mais que là, on se retrouve dans un nœud vipère où on met tous les bloquistes dans le panier d'être racistes et on sous-tend la réaction et les préjugés habituels du Canada anglais à l'égard des souverainistes au Québec, que c'est tous des racistes.
Bref, c'est dommage parce que ça vient maintenir la polarisation dans le débat, alors que, comme tu dis, il pourrait de son poste, de sa situation, amener les gens au dialogue, puis essayer d'avoir un dialogue fécond, mais là, au contraire, on est dans la polarisation à outrance. Hey, Emmanuel, le temps file, faut absolument, ben, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je pense, qu'on se parle des débats des candidats à la chefferie du Parti conservateur, mais particulièrement le débat français qui a eu lieu avant-hier.
Oh,
tes impressions?
Silence. Je sais pas comment
ça veut tout dire.
À la radio. J'avais l'impression d'un débat à la présidence d'un club social dans un village, dans un trou perdu. Je veux dire, le niveau était... C'était tellement mesquin, premièrement, là, à se crier après. C'était... Ouais. Comme ils ne maîtrisent pas le français, les uns et l'autre en étaient dans des slogans et des phrases creuses. Non, c'était désastreux. C'était moins désastreux que le débat équivalent à Québec en 2017, par ailleurs, où j'avais quitté avant la fin. Je vais t'avouer que même ce débat-là...
Avec le regretté Deepak.
Donc, ils ont fait un progrès par rapport à 2017, mais j'ai pas été capable d'écouter jusqu'à la fin.
Ah non, moi non plus.
J'en ai écouté 30 minutes, là, puis là, j'ai dit, regarde, je suis capable. Là. Je veux dire, il y a une limite là, à se faire souffrir et se faire violence dans la vie. Mais, ceci étant dit, au-delà de ça, je pense qu'on a vu... des efforts importants là, qu'ont fait Erin O'Toole et Peter McKay en français. Je pense que Peter McKay va avoir réussi par cette performance-là à en rassurer plusieurs et à faire oublier son lancement de campagne. Là. Mais c'est malheureux qu'on est en 2020 dans un pays où un parti qui est aussi grand que le Parti conservateur, qui a une aussi grande histoire dans notre pays, en 2020, se ramasse encore avec des candidats qui ont un niveau de bilinguisme des années 70. Tu sais.
Ah oui, absolument.
C'est ça le constat. Tu sais.
J'ai entendu bien des gens dire que Erin O'Toole et Peter McKay avaient le même niveau de français que Andrew Scheer. Je sais pas toi, mais moi, Andrew Scheer, à la fin, là, en campagne électorale, son français était meilleur que ce qu'on a entendu.
Non, mais qu'Andrew Scheer au même moment. Et que non, mais c'est ça qui est fou. C'est que c'est ça change pas. Donc, Andrew Scheer, c'était correct parce qu'il avait le même niveau d'anglais que Harper quand il a été élu en 2002. Donc, tu sais, tu te dis, mon Dieu, en 2017, avoir un niveau de français de 2002, c'est acceptable. Puis là, on est rendu en 2020. Puis avoir un niveau de français qui est de 2017, qui finalement est celui de 2002, est acceptable. C'est pas peu dire, là.
Ouais.
Et je veux dire, alors, c'est un parti qui n'a pas évolué sur ce front-là. Moi, je trouve que c'est malheureux. Mais ceci étant dit, je pense que Peter McKay va avoir atteint son objectif, qui était celui de rassurer qu'il n'était pas honteux en français. Et je te dirais que dans le débat anglais hier, on a vu toute l'expérience politique de Peter McKay.
Effectivement, parce que c'était totalement différent la dynamique hier là, et moi j'ai trouvé qu'il, on cherche souvent là l'aspect premier ministrable, tu sais, puis Erin O'Toole qui jouait beaucoup sur le fait que lui il est déjà là, lui il est déjà en chambre, il est prêt, mais un moment donné t'as aussi l'autre à côté qui a beaucoup d'expérience, qui a une façon de s'exprimer, qui qui nous fait penser à quelqu'un qui peut être chef d'un parti ou qui peut aspirer à devenir premier ministre d'un pays, là.
Oui, tu voyais le premier ministre en attente là. Puis moi, j'ai fait le test, tu sais, la conciliation travail-famille. J'écoutais ça dans mon lit. Puis ma fille était à côté de moi. Puis là, je lui expliquais c'était quoi. Alors je lui ai dit, Clara, lequel a l'air d'un premier ministre?
Oh.
Là, elle a écouté. Puis elle a 9 ans là, donc elle était pas dans la. Tu sais, elle était dans le. Elle a dit, maman, je pense que c'est le premier. C'est lui. Puis là, elle m'a montré. Je dis, ah oui, tu trouves, hein? Elle dit, oui, oui. Elle dit, il inspire. Alors, c'est, moi, j'avais fait mon opinion, là. Je ne fais pas mon analyse basée sur le regard de ma fille, mais il projetait une autorité, il y avait une aisance, et ouais. Il y avait, tu sais, dans un débat comme sur le racisme, là, où c'est un débat qui est difficile, mais qui, pendant longtemps, a été l'apanage du Parti conservateur. Faut pas oublier que c'est le Parti conservateur qui a mené la bataille contre l'apartheid. Donc, c'est pas supposé être un enjeu délicat pour eux. Monsieur McKay a mené ce débat-là de main de main, t'sais, en prenant de front l'enjeu des forces policières, de la représentativité dans la fonction publique, dans les forces policières, dans l'armée, et que c'est important non seulement par souci d'inclusion, mais parce que ces gens-là, de l'intérieur, finissent à aider à changer les mentalités. T'sais, y avait une réflexion assez plus avancée que les autres là-dessus. Mais donc, c'est quand même une course qui est très serrée. Moi, je pense pas qu'il va avoir un couronnement facile au premier tour avec 70% du vote, là. Et c'est très clair que M. O'Toole, lui, fait campagne pour espérer gagner au deuxième tour.
Ouais.
Donc, en allant chercher les appuis des conservateurs sociaux, tu sais.
Donc, on va suivre ça pendant l'été. C'est le 21 août que ça va se dérouler, le couronnement du chef.
On va être revenu en onde. On va pouvoir en parler.
Ben oui. Hey, Emmanuel, ça a été un immense plaisir de collaborer avec toi pendant toute la saison. Je te souhaite une belle période estivale. Repose-toi bien, puis on se reparle très bientôt.
Très bientôt aussi. Au revoir.
Salut.